C'est un jour sale avec des griffures partout devant les choses. De la lumière qui tape derrière les yeux, des fausses veines qui rongent devant. Je suis à poil complètement sur un palier, c'est comme un balcon. C'est pas mon balcon, il n'y a pas de balcon chez moi, il n'y en a nulle part où je puisse reconnaître celui-là. Ma tête gonfle, des angles gonflent comme un cœur, c'est dur dedans, dans les bras, le torse, partout. J'ai absorbé les planches par la peau. J'ai dormi là, à poil. Ou une sorte de balcon, donc. Avec une enfilade de portes, des escaliers vers d'autres balcons, bois vert comme une trame mécanique, paillasson à la con, pas à la con, soleil froid du jour qui vient, c'est le froid qui m'a réveillé. Ou je vais vomir, ça monte. Ça monte et ça cale sous la gorge comme un coin de bois, je vomis pas, c'est pire. Je reconnais rien, et pourtant si j'ai dormi devant cette porte-là, j'ai dû la choisir comme un chien, voilà. J'ai pas de solution, je frappe à cette porte et les coups, c'est dans ma poitrine qui sonne. Il y a des bruits derrière, on s'affaire, les coups étaient un ricoche, pourtant encore longtemps dans mon cœur, c'est comme la peur, exactement. Alors quand elle s'ouvre, c'est la porte d'un avion qui s'ouvre au-dessus du vide et il faut sauter avec les joues qui brûlent, l'estomac plaqué au fond du ventre et tout-tim. Je comprends pas un mot de ce qu'elle dit, pourtant c'est sûr, elle me reconnaît, elle. Elle hurle et je traverse un tunnel, les oreilles operculées avec le vertige et le silence piégé dans la tête. Elle repart dans l'appartement en criant toujours. J'entends pas ma propre voix, mes questions, pourtant je lui cause. Elle revient, me jette une pluie lourde sur la tête, la porte claque, c'est fini. Motus, je rassemble mes fringues. Elle a oublié les chaussettes. Mais moi, j'aurais rien d'elle, pas un souvenir, rien, une porte fermée dans un quartier que je connais pas. C'est trop souvent comme ça, trop souvent le ciel blanc avec la tête vrillée, trop souvent la boue dans la bouche et des merdes de ce genre. Réveillé dans un lit inconnu, dire bonjour à qui? Tout petit là, noyé dans des draps dont l'odeur est hostile. On y a laissé un peu de la sienne, et c'est pire, on sait pas à quoi. Comment pas la nommer? Lui parler sans avoir à la nommer, l'air d'en savoir long, avec une petite canne blanche. Pour la première fois, petite bête ramassée, petite bête mouillée, fini, le café dure 3 jours. Les sourires tiennent par des cordes, elle voit tout. Elle me trouve infecte, et c'est trop pour me le faire remarquer. Ce sera 1, ce sera 2000 autres jours aussi sales, avec des griffures partout. Bon, de toute façon, Cosme, s'il avait bu quoi que ce soit, on l'aurait remarqué, non? Il y aurait eu un verre, une bouteille, des trucs comme ça, pas loin du corps, il sentait pas l'alcool. Non? Il prenait autre chose? Que je sache, non. Bon, il fumait un petit peu avec nous dans des soirées. Oui, c'est vrai, il fumait un petit peu, un pétard de temps en temps, comme tout le monde, enfin rien d'autre, enfin je crois. Olivier, il prenait rien, Gabi? Et là, il n'y a pas de drogué chez moi, hein? Non, je vous prendrais quelque chose, monsieur? Café, Savelle, vous prenez quelque chose, vous? Café, pas de drogué chez vous, c'est ce que vous avez dit? Non, je déconne, je vous entendais causer, mais bon, c'est vrai que je surveille quand même, hein. Dans un bar, on est obligé. Quelqu'un t'a demandé une conférence sur les méfaits de la drogue, GG. Hein, ta morale spécieuse t'empêche jamais de nous abreuver jusqu'à ce qu'on sorte de chez toi à genoux et tu vas nous chanter la drogue c'est de la merde, c'est ça? Dis donc, c'est pas pareil, Laurent, ça n'a rien à voir. Putain, mais la fais pas trop, s'il te plaît. Moi, je suis alcoolique depuis 15 ans et je sais ce que ça signifie. Tout n'a pas été encore liquéfié par ta bibine à l'étage. Je suppose que ça te choquerait hein, si au mariage de ta cousine on filait au petit dernier son premier rail de coke pour fêter ça, hein, GG? T'imagines toute la famille s'émouvoir et se marrer devant le premier acide du petit Toto? Pourtant, tout le monde se marre de voir un mouflet de 7 ans se rougir les pupilles en liquidant sa première coupette de mousseux de merde et apprendre déjà l'art de se déchirer la tête. Toute sa vie, il verra ça, tout le temps. Il verra des affiches, des films, des feuilletons à la con qui associent le plus naturellement du monde les moments de sa vie à l'alcool, la fête, le pot de départ de machin, la première fille, les préparatifs à la baise, la déprime, les vacances au soleil et l'apéro, le petit coup de fouet, tout ça, content. Et l'hiver aussi. Il pourra tourner la tête dans tous les sens. C'est ça le paysage balisé pour lui. Pourquoi il trouverait ça anormal, hein? T'imagines? Des affiches 4-3 avec une petite seringue et une cuillère dans une jolie atmosphère bleue avec juste au-dessous l'abus d'héroïne est dangereux pour la santé, consommé avec modération. N'importe quoi, toi, hein, tu délires. Ou un petit soap de derrière les fagots. Pamela, j'ai demandé au garçon de nous monter un petit gramme de bourrin. Oh, Ramon, vous pensez à tout, vous êtes tellement romantique. Essaye d'imaginer une rue comme celle-là, avec des oiseaux comme toi, derrière un comptoir, illuminé, pareil, des enseignes, avec des noms charmants, pareil, le green, le sympathique, pour fourguer un échantillonnage des multiples couleurs d'héros disponibles, des pipes, du crack, des étagères, des pompes, des garrots et des cuillères. C'est pareil. Je suis bien placé pour savoir que c'est pareil. À ce détail près que décrocher de l'alcool, dans une société où chaque situation est ponctuée d'un appel public à picoler, bah c'est pas simple, hein, je t'assure. Pourquoi décrocher? Hein, ma puce? C'est pas toi qui vas m'encourager à décrocher? C'est légal de picoler, arrête tes conneries. Béni sois-tu, voix de la raison, du bon sens, haleine de la nation, viens que je t'embrasse. Loué soient tes mots d'estomac légaux, tes dégueulades légales, tes rancœurs légales qui déchirent les amis, qu'on fabrique des nouveaux qu'on peut mépriser si vous payez à boire, qui bastonnent les mouflets, qui grissent les bonnes femmes, qui balancent le papa dans un platane ou dans la Seine le plus légalement du monde. Béni aussi tes hallucinations légales qui rendent violentes jusqu'à l'assassinat les querelles de pot de chambre et qui rendent indifférents au spectacle de ces assassinats. Merci. Merci pour cette lourdeur légale qui éteint une à une les loupiottes dans mon crâne sans rémission, aucune. Pour l'assistance légale à l'érection, faute de pouvoir encore baiser à jeun. Et pour la détumescence légale qui nous guette tous, au bout du compte. C'est vrai que c'est légal. Tu t'es jamais dit que c'était un vague accident de l'histoire? Qu'il fallait bien qu'il y ait au moins une saloperie de ce genre qui soit rendue légale pour nous décoller sagement de l'indécollable situation qui rend la défonce nécessaire? Que ça aurait pu être n'importe quelle merde au fond et que c'est celle-là qui rend le moins désobéissant? Monsieur DM. On peut revenir un peu à l'objet de notre visite, monsieur DM. Bon, vous connaissez Gabriel Barry, vous connaissez bien? Plutôt pas mal, on faisait des trucs ensemble des fois. Est-ce que vous, quelqu'un ici, aurait une idée de la moindre raison ayant conduit Christophe Graal, Gabriel Barry, au suicide? Il n'y a que ça des raisons, partout. Pourquoi en choisir une? La réponse de Cosme aux déclarations de Laurent, qui s'en faisait plus guère d'illusions et depuis une mille de lurettes sur le poids accordé à ces si fréquentes rosseries qu'on préférait les imaginer musicales, ne fut pas entendue. La mère d'Annabelle fit instantanément geler les bières en braillant vers la table pour harponner sa fille dans l'injure et la ramener presto dans l'éponge utérine où elle ne l'avait, semble-t-il, pas étranglée assez longtemps. Dandinant comme un ours jusqu'à l'index de Piccolo sidéré qui écoutait pleuvoir les « Salope, putain !» et guirlandes assez ternes d'imprécations de ce gabarit, elle écarrit l'espace qui la séparait de la porte d'entrée à petits coups de hanche, monumental pourtant. S'il y avait eu cette petite pointe de saleté qui vous compresse une jeune fille ad vitam et vous l'épingle dans la névrose qu'aucun vivant ne lavera jamais assez blanc, Laurent aurait remercié la Providence pour cette illustration magistrale de son tombeau pour 500 000 poivrons. La mère à Annabelle, c'était le totem à tous, l'odeur de prémonition. Le fétiche qu'on s'agite en se levant d'une soirée trop longue et disant « Putain, il faut que j'arrête tout ça ». C'était l'image de tout ce qui en nous travaillait le corps à foutre à bas. C'était l'image. L'image qu'attend, dans le fond du miroir, que vous lui soyez synchrone. Le père, lui, s'est éterni longtemps dans l'ombre de ce fléau en faisant graduellement le pari de la disparition. C'était toujours à des voiles sans substance que s'arrimaient les doigts de la petite Annabelle quand elle pétochait trop et qu'elle cherchait de l'aide. Le père lui restait en lambeaux dans les mains. On y avait tous goûté à la sordide confusion qui, en limant polymore à la belle, conduisait chacun à la paternalisation. Personne n'y avait tenu très longtemps à ce jeu épouvantable. Et malgré toute la tendresse des liens qui pouvaient naître des gazouillis avec elle, c'était bien trop lourd à porter pour des corps déjà bien touchés par la disgrâce et l'armoire des mauvaises années filées. Alors, après avoir un moment accepté d'encadrer sa détresse avec des habits trop grands de papa illusoire, il était fatal qu'on exigeât un peu de regard pour soi. On n'est pas des fantômes quand même. Mais c'était bien impossible à Annabelle, qui patinait dans une galerie des glaces où jamais se reflétait autre chose que sa tête seule à elle et quelques mots d'amour mal fauchés à des mauvais bouquins. Et ça se délitait, puis passe à l'autre, et puis tant pis. C'est rare, au fond, quand il y a des gens, des vrais gens dans les yeux des amants. Et là, il faut dire que ça se voyait un peu trop les coulisses et le décor. Un jour d'été brûlant, avec des oiseaux dans le ciel, une plume carbonisée est tombée dans l'œil d'Annabelle. On le voyait plus du tout, le père, depuis déjà 2 mois qu'il s'était barré avec le clébard loin, se faire une vie de jeune homme qu'il avait oublié de vivre à temps, avalé par les choses. C'est trop souvent, avant de clabauder, qu'on se dit dans un dernier soupir, tiens, j'ai oublié de dire bonjour. Et il n'était pas encore trop tard pour la chambre de bonne, les filles d'une nuit ou deux, les servitudes ménagères empilées loin derrière les soirées de bar, très profondément dans la nuit et peut-être même, les lire, enfin. Pas facile de pister un ectoplasme qui s'est niché dans la discrétion. Annabelle, alors marmotte de 16 ou 17 ans, cherchait l'invisible derrière des rideaux de buée. Quand enfin elle avait retrouvé la piaule de 5e étage qu'avait choisi son père pour fuir le gâchis dans lequel il avait 40 années tassé méthodiquement sa vie, il était incrusté dans la moquette comme une pâte cartonneuse depuis au moins une semaine. Ce qui restait dur faisait flotter le tissu. Son cœur lui avait laissé un peu de temps pour les filles et les bars, mais pas encore assez pour les livres. Elle avait rien dit sur l'odeur, sur ce qu'elle avait vu, sur l'état du corps, juste aux proches. Le chien était tout sale. A resté alors à Annabelle cette mère à rien, à laquelle pourtant elle raccrochait Dieu sait quel lampion de famille. C'est le malheur des nécessiteux, ils courent toute leur vie après une forme de la fortune que tous ceux qui en disposent jetteraient à la flotte sans remords. Son entrée, calcinée comme un ragondin en plein après-midi et les yeux pleins de flotte jaune, était la millième du genre. Ses insultes, une musique très, très souvent jouée. Le pire, évidemment, c'est qu'on s'était habitué, comme tout, c'était ça où la chute dans l'impuissance et la honte imbuvable. Regardant cette bouillie d'êtres méchants comme l'imagination permettrait même pas d'imaginer, traitant sa fille de pute dans des gutturations encore pleines de bouffe et de pinard, la gueule tordant chaque expression comme les convulsifs de la salpêtrière, se cintrait le croupion et s'essorait les quilles. Pascal revoyait bizarrement le visage d'Amande, sa mère, morte l'année précédente, semblable en tout point et pourtant la douceur incarnée. Et il se disait que dans cette dernière part de civilisation chez elle, ce qui résistait, ce qui était resté civilisé contre tout, c'était la manière de sourire, comme un rideau aperçu derrière un rideau. Par la bouche se manifestait encore l'ange piégé dans un sac en peau de mort. Tôt ou tard, et se ressemblent toutes les femmes qui boivent, à partir d'un certain âge, ça apparaît d'un coup. Ça tombe à jamais comme une persona grecque à la cinquantaine par là, elles prennent toutes la même gueule comme les rondes de trisomique. C'est le menton indécent et les ridules pour contourer ça 10 fois. Napperon ou goutte dans l'eau, les yeux pochés, les bajoux pareils. Un tour de bouille carré, une toux filasse désormais impeignable au sommet. Et la seule différence, c'est le cœur. On voit que ça, qui tient encore un peu. C'est marrant comme les hommes de ce côté-là seulement avancent plus masqués, plus divers dans l'éventail des amochoirs. Pascal se disait qu'il faudrait bien un jour qu'ils y aillent prier, lui et quelques potes plutôt vrais encore, la dire cette prière jamais dite sur la tombe de cette femme démolie par l'alcool, pour réveiller chez eux le cœur qui avait résisté derrière ce visage devenu de tout le monde.